marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30.
Les hommes, les événements, les idées à l'ordre du jour.
Le triomphe des identités, juste.
La fête d'Alpha Epsilon Pi.
Qu'est-ce que c'est ?
La fraternité juive. C'était leur soirée Caraïbe.
Je bosse sur un algorithme définissant les relations entre les filles asiatiques et les garçons juifs.
Je pense pas que ce soit compliqué. Elles sont canons, elles sont malines, elles sont pas juives et elles savent pas danser. C'est pas que les gars comme moi soient généralement attirés par les filles asiatiques, c'est que les filles asiatiques sont généralement attirées par des gars comme moi.
Un extrait de Social Network. Les campus américains ont été le lieu d'expérimentation des politiques d'identité qui se sont diffusées à une vitesse éclair grâce à l'interconnexion planétaire que nous vivons dorénavant. Politique d'identité. L'expression surgit à la fin des années 1970. La politique doit venir directement et profondément de notre propre identité. Identité de couleur, identité de genre d'abord, puis d'autres viendront. L'identité, pour se déployer, a généralement besoin d'un récit navré. Elle se vit d'abord blessée, contrariée, mais elle est toujours incomplète et donc susceptible de contestation, de reconceptualisation, de recomposition. Exemple, homosexuel, c'est devenu une formulation trop simpliste. Il est vrai qu'elle est issue du vocabulaire psychiatrique. L'homosexualité est maintenant incluse dans un vaste champ mouvant, LGBTQIA+. Bien que la sissiparité soit un mode de reproduction asexué, on pourrait parler de sissiparité des identités. D'ailleurs, les asexuels, A, viennent d'être joints au LGBTQI. C'est pour cela que les esprits informés parlent de LGBTQIA+. Bon. Certains vont dire qu'ils voudraient mieux en rire et soutenir que ces byzantinismes n'intéressent pas grand monde. Mais le simple survol de la réalité virtuelle montre la cristallisation partout de groupes de semblables accrochés à leur conception non négociable. Une fois que nous avons décidé qui nous sommes, nous recherchons des « comme nous ». Je suis ceci, donc je pense ceci, vous êtes cela, vous pensez donc cela. L'exercice de la politique qui n'est pas seulement affrontement, ni même débat, mais dialogue dans une cité commune, ne s'en trouve pas facilité, c'est le moins qu'on puisse dire.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun, sur France Inter.
Et Laurent Dubreuil, ici présent, bonjour.
Bonjour.
Va même jusqu'à parler de dictature des identités. C'est le titre que vous avez choisi pour un livre qui paraît aux éditions Gallimard. Alors vous allez expliquer que mes positions sont trop prudentes parce qu'il faut toujours faire attention quand on parle de ces sujets. Il faut faire attention surtout quand on est professeur dans un campus américain. Alors c'est votre cas ?
Oui, c'est mon cas. Je fais attention, mais j'ai aussi, par le reste de la société américaine qui a une histoire différente, j'ai aussi accès à une liberté de parole que j'use, dont j'use, sans en abuser. Mais il est certain que la question de la discussion des identités, ou du bien fondé des identités en général, devient de plus en plus problématique dans les campus, mais très au-delà.
Mais vous avez quitté la France parce que vous ouvriez trop votre gueule ?
C'est une des raisons, oui. Ouais.
Et pourtant, vous avez un doctorat d'études féminines ?
Oui, c'est vrai, c'est vrai.
C'est ça vrai. Existe encore, ça, le doctorat d'études féminines ?
Je crois que le doctorat d'études féminines, je sais qu'il n'existe plus en tant que tel, parce que le centre, c'est le centre d'études de genre, mais je ne sais plus quelle est la dernière dénomination. Il est toujours à Paris 8. Et même si je n'en fais pas état dans le livre, cela entre dans les raisons pour lesquelles j'espère ne pas être forcément uniquement perçu comme une sorte de franchouillard réactionnaire universaliste quand
et
je
puis,
critique l'identité.
Il faut que dans cette émission on prenne garde, parce que ce serait facile de faire dans le genre foire au cancre, à ne pas multiplier des anecdotes drôlatiques comme si tout ça n'avait pas d'importance ou dépassait la raison.
C'est évidemment très important ce qui se passe sur la question de l'identité, et d'autant plus que tout peut devenir identité, bien au-delà de ce qu'on croirait être les répartitions classiques de genre, de sexe ou de race.
la prolifération, vous nous en parlerez tout à l'heure. Et puis on définira le genre, c'est promis. Mais d'abord, assistons à une remise de diplômes traditionnels, comme ça se passait selon des usages déjà anciens dans les campus américains. On voit ça souvent dans les films, les lauréats sont mis en avant et les familles énamourées applaudissent.
C'est la remise des diplômes.
Nous vous rendons hommage et vous présentons une fois encore toutes nos félicitations.
Nina Lynn Lockwin. Christopher Johnson McCandless.
Tu m'as affiché une de ces frousses quand je t'ai vu sauter sur l'estrade comme ça. Assieds-toi.
Salut, papa.
Je te félicite, c'est un jour important.
Oui, je suis content.
On a reconnu un film de Sean Penn. Alors, vous dites que dans un certain nombre d'universités, Laurent Dubreuil, à Harvard, à Emory, dans d'autres encore, il y a maintenant des remises de diplômes séparés qui ont lieu avant la reprise de diplôme général.
Oui, oui, c'est une nouveauté, pour autant que je sache, une nouveauté de 2017. Il faut bien comprendre que l'enseignement universitaire aux États-Unis est quand même très individualisé, et que le seul instant de vraie réunion des étudiants, généralement, c'est cette cérémonie de diplôme qui s'appelle d'ailleurs, d'un mot français, commencement, commencement, parce que c'est le commencement de la vie professionnelle. Mais en 2017, plusieurs universités, indépendamment les unes des autres, ont organisé chacune des cérémonies spéciales pour certaines identités. Par exemple, à Harvard, c'était une cérémonie préalable pour les étudiants noirs, mais à Columbia, c'était pour une identité qu'on ne connaît pas vraiment en France, qui s'appelle First Gen, première génération, c'est-à-dire les gens dont les parents n'ont pas fait d'études universitaires.
Et qu'est-ce que c'est les lavandes ?
Les lavandes, c'est un terme qui est un peu plus daté d'ailleurs que l'arc-en-ciel pour LGBTQIA+. Donc c'est pour renvoyer à ce qui ne correspondrait pas aux identités hétéronormatives, pour reprendre le
terme. Alors attendez, avant d'employer des mots que nos auditeurs ne connaissent pas tous, simplement, selon vous, la généalogie du mot genre, on lit parfois... les transgenres, les transsexuels, on disait les transsexuels dans les années 50, exprimaient un malaise voyant une différence entre le sexe auquel ils étaient assignés depuis leur naissance et ce qu'ils vivaient. Et c'est comme ça que progressivement la réflexion sur le genre s'est établie. Vous avez une autre généalogie, vous ?
La question du genre, elle apparaît dès que se pose une interrogation sur la naturalité du sexe. Est-ce que on est femme ou est-ce que, comme le disait Simone de Beauvoir, on le devient ? Si on le devient, il peut y avoir une distinction entre le sexe assigné à la naissance et le genre. Alors, à l'intérieur des études féminines et autres aux États-Unis, s'est développé progressivement un concept de genre qui renvoie généralement à la construction du sexe. Il y a un ouvrage... un excellent ouvrage d'Anne Berger en français sur le théâtre du genre.
Alors, théâtre du genre, Judith Butler, grande pionnière en la matière, dit qu'on peut théâtraliser, qu'on peut jouer le genre qu'on se construit. Et comme le genre est toujours marqué par l'incomplétude, il est susceptible de contestation, de réinterprétation, de recomposition, de travestissement, voire.
Oui. Les années 70, c'est le moment où les identités politiques commencent à apparaître en tant que sujet. Les années 90, c'est la première très grande vague de cette politique des identités. Et puis, pour plein de raisons, entre autres une critique de gauche et une critique de droite des identités politiques, on voit un ressac. C'est à ce moment-là que Judith Butler va théoriser le terme de queer. qui renvoie à quelque chose de beaucoup plus fluide que l'identité homosexuelle ou hétérosexuelle. Elle essaye à ce moment-là, dans la fin des années 90, de mon point de vue, de manière incomplète et problématique, mais elle essaye d'aller vers quelque chose qui soit un au-delà de l'identité. Il force est de constater aujourd'hui que le Q de queer est bien dans la liste de LGBTQ et est désormais considéré pratiquement comme une identité parmi d'autres et non pas comme ce qui ferait pièce à des catégories fixes.
Donc, mais si on cherchait bien LGBTQIA comme asexuel plus, etc., vous avez trouvé 3-4 mentions supplémentaires possibles. Si
on peut trouver plus. Hein. Déjà, c'est assez récent qu'on ajoute le plus à la fin, qui indique que d'autres identités qu'on ne connaît pas encore vont être découvertes. Mais en particulier au Canada anglophone, qui est plus avancé par certains aspects sur ces questions-là que les États-Unis, on a d'autres catégories. On a un autre Q pour questioning, qui serait en français hésitant. On peut avoir un A pour allié, donc je ne suis pas, mais je suis allié. Deux S pour renvoyer aux populations autochtones et à two-spirited, etc.
Mais je parle de cis-parité parce qu'au fond, les identités peuvent se disséminer et puis se multiplier hors des deux grands secteurs race, couleur, genre que vous avez déjà signalé. Je sais pas, un survivant du cancer, il peut créer ou s'agréger à une identité.
Désormais, oui, le survivant du cancer ou la survivante de viol sont des identités à part entière. Et certaines identités sont plus drôlatiques, de notre point de vue.
Mais on l'a dit qu'on ne le faisait pas dans le drôlatique. Mais, jusqu'ici, ce n'est pas du tout le cas.
Pas du tout. Mais les identités
Se multiplient. Qui vous paraissent drôlatiques?
Disons que une que je partage, si c'était une identité, ça n'en est pas une, mais c'est l'identité d'allergique, qui devient en tant que telle une identité avec ses traits constitutifs. Et c'est pas juste considéré comme une pathologie ou comme une maladie. Hein, c'est une identité.
Et à certains de nos auditeurs qui nous écoutent depuis la campagne, on peut signaler
l'identité
l'émergence rurale,
qui est de l'identité en train rurale. En train de monter. Ça, c'est très récent. C'est à la pointe.
Alors voici maintenant Lady Gaga, comme le recommande votre livre « La dictature des identités blanc, noir, beige ». Vous citez longuement cette chanson. « Faites métisse ou d'Orient, je suis belle comme ça, moi, parce que Dieu ne fait pas d'erreur, je suis née comme ça ». You're black, white, beige, Chola descent. You're Lebanese, you're Orient. Whether life's disabilities left you outcast for leader teased, rejoice and love yourself today, 'cause baby, you were born this way. No matter gay, straight or bi, lesbian, transgender life, I'm on the right track, baby, I was born to survive. No matter black, white, or beige, Chola.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
En compagnie de Laurent Dubreuil qui publie chez Gallimard « La dictature », il emploie le mot « dictature » des identités. Un commentaire sur Lady Gaga ?
Ah oui, c'est une sorte de magnifique catéchisme identitaire qui mêle un certain nombre de traits qui nous intéressent sur cette identité politique telle qu'elle se déploie aujourd'hui, puisque le « born this way » naît comme ça. Et la référence à l'ADN nous indique que très très souvent, ces identités sont prises comme des sortes de destins et volontiers reliées à une configuration génétique. C'est pour ça qu'on a tant de recherches scientifiques aux États-Unis sur les gènes de comportement. Et par ailleurs, la présence de Dieu et de la vérité, et d'être on the right track, c'est-à-dire sur la bonne voie, mais aussi sur les bons rails, nous renvoie également à cette sorte de, non pas de fatalisme, ce serait trop dire, mais de déterminisme par une programmation.
Alors, parlons déterminisme et programmation, il serait temps que vous nous disiez d'où vous parlez. Non, ça c'est une formule d'après 68. Il serait temps que vous nous disiez qui vous êtes, Laurent Duvreuil. Vous vous livrez à l'exercice, enfin, avec difficulté, vers le milieu du livre. Je suis bien obligé de livrer mes identités navrées, expliquez-vous.
Oui, alors, la chose que je voudrais dire, c'est que il y a qui je suis et ce que je suis, qui sont deux positions différentes. Mais il est certain qu'une personne un peu plus prudente que moi mettrait pour déminer, comme on dit au tout début de l'ouvrage, la liste des identités navrées à laquelle elle peut se rattacher.
Mais vous avez été victime de micro-agressions.
J'ai été victime de micro-agressions. Je ne suis pas hétéronormatif. Je suis un première génération. Je ne suis pas américain, ce qui veut dire que je suis non-citoyen, ce qui est aujourd'hui une minorité en tant que telle.
Et vous êtes livide ?
Je suis livide et on me l'a longuement reproché pendant mon existence. J'étais trop gros. Enfin, on peut se lancer comme ça dans tout un tas de références qui sont des références autobiographiques et qui pourraient être sans importance, sauf qu'elles donnent toutes aujourd'hui lieu à la création d'identité.
Et vous avez été victime d'allergie.
Et j'ai été en effet victime d'allergie, je le suis toujours.
Mais vous êtes professeur de littérature, on ne l'a pas dit assez jusqu'ici, à Cornell, dans l'état de New York, et ce qui vous intéresse, je ne sais pas moi, dans la tragédie grecque par exemple, parce que vous êtes aussi helléniste de formation, c'est le fait que la détermination pour les personnages de la tragédie n'est pas un déterminisme.
Exactement, le personnage tragique... sans doute que son histoire va terminer mal comme l'avaient prévu les dieux, mais le personnage tragique a la liberté d'agir à l'intérieur de ce point terminal. Ce qui est différent, et c'est pour ça que j'emploie pas le terme vraiment de fatalisme aujourd'hui, pour les identités politiques, c'est que la conception voudrait que non seulement le résultat soit le même, mais que tous les éléments du comportement soient d'ores et déjà connus d'avance par l'assignation à une identité première et sans cesse répétée et répercutée.
Vous employez le mot de possibilisme, on emploie des mots originaux aujourd'hui.
Oui.
Possibilisme contre déterminisme.
Oui, voilà, moi je suis du côté du possibilisme parce que je pense qu'il y a des choses possibles.
Alors, est-ce que vous n'avez pas des difficultés néanmoins dans l'enseignement de la littérature ? Vous prenez l'exemple des métamorphoses d'Ovide. Alors, Hadès enlève Perséphone. Apollon poursuit Daphné. Zeus viole Europe. Toutes ces agressions donnent l'impression que les femmes n'existent que pour être violées.
Mm-hmm.
Je lis ça dans
oui,
un
oui.
compte-rendu récent d'une traduction d'Ovide mm-hmm. qui vient de paraître en français.
D'accord.
Il y a cette précaution qui est oui. utilisée avant de parler de la traduction et du texte.
Oui, oui. Bien, on est donc dans une preuve supplémentaire que ce qui se passe aux États-Unis dans les campus arrive par le monde. Donc, il s'agit, surtout dans les universités, ce qui n'est pas le cas de la mienne, mais dans les universités où on a des cours d'introduction à la littérature pour tous, cours d'introduction pour tous les étudiants, il s'agit aujourd'hui d'une pratique complexe, parce que tout enseignement peut susciter le heurt d'une identité qui va se trouver dans la classe. Et c'est vrai qu'à Columbia, il y a quelques années, il y a eu une affaire sur Ovide, parce qu'une étudiante qui avait été victime d'attouchement sexuel a trouvé que la lecture du texte d'Ovide la renvoyait
à un traumatisme. Alors peut-être que pour que les déclencheurs ne fassent pas de dégâts, j'emploie le vocabulaire qui est utilisé dans les campus, faut-il des panneaux d'avertissement ? Par exemple, quand vous étudiez Gatsby, le magnifique, ceux ou celles qui, parmi les étudiants et les étudiantes, ont été tentés par le suicide, seraient heureux, heureuses de voir une signalisation. Alors vous vous souvenez de l'histoire, Gatsby est dans sa piscine, sur son matelas pneumatique, et Wilson va sévir.
On qu'un peu plus tard, quand nous sommes revenus vers la maison, en transportant Gatsby, que le jardinier a aperçu un peu plus loin sur la pelouse le corps de Wilson. Et le sacrifice rituel s'est trouvé accompli. Il s'était tiré une balle dans la bouche après avoir assassiné Gatsby.
Alors les suicidaires, c'est une identité qui peut demander qu'on fasse attention quand on présente des œuvres comme celle-ci.
Oui, oui, mais donc ça s'appelle trigger warning, ce qu'on pourrait traduire plus ou moins par avertissement déclencheur ou avertissement du déclenchement. L'avertissement du déclenchement, ça n'est pas juste pour préparer les esprits. D'ailleurs, une recherche empirique vient de montrer la semaine dernière qu'elle ne préparait en rien les esprits. Au pire, lorsqu'on dit aux étudiants, aux étudiantes que quelque chose, qu'un contenu dangereux pour leurs identités peut être considéré, l'impact négatif sera plus grand. Mais l'idée ultime, c'est justement qu'un étudiant, une étudiante puisse ne pas avoir à lire ou à voir ou à étudier une œuvre sur la foi de l'avertissement préalable qui lui aura été donné par le ou la professeur.
Vous parliez du Québec tout à l'heure. Voici un exemple venu du Québec et qui touche aussi la France. Alors le Québec se veut pionnier maintenant, non pas parce qu'il est descendant des pionniers français, mais parce que il serait dans le dialogue avec les communautés autochtones tout à fait exemplaire et donnerait des leçons de morale au monde entier. Robert Lepage voulait monter une pièce sur les peuples autochtones, a fait appel parce que ils sont parents artistiquement depuis longtemps à Ariane Nouchkine, et cette pièce Kanatan a pu être représentée au Québec parce que le motif invoqué était le suivant: les autochtones ne jouaient pas leur rôle et on ne pouvait pas déléguer à d'autres la parole qu'il portait. Finalement, à la cartoucherie de Vincennes, des représentations peuvent avoir lieu présentement de Kanata, deux comédiennes, puis Ariane Louchkine.
On avait rencontré des gens, des femmes autochtones qui étaient complètement pour ce projet aussi.
Oui, pour ce projet, et qui même nous avaient dit, maintenant voilà, je vous ai raconté mon histoire, à vous de la faire connaître, à vous de la raconter, et vous êtes ma voix en fait. Elle nous disait ça, vous êtes ma voix. C'est elle qu'on va trahir aussi, si on ne peut pas jouer.
Tout le mal est venu en partie d'une méfiance, au fond. Hein. C'est-à-dire, d'avance, ils nous traitaient de... Dont les gens les plus violents nous disaient « Vous ne serez pas capable, tes artistes ne peuvent pas imaginer », alors que c'est le travail des artistes d'imaginer. Depuis toujours, depuis des millénaires. Un acteur, une actrice, c'est fait pour être l'autre. Moi, j'avoue, je serais très heureuse le jour où un groupe d'autochtones s'emparera de la Révolution française ou d'un épisode de la Révolution ou de la Commune.
Peut-on raconter l'histoire de l'autre ?
En régime identitaire, non. Non, on peut, en régime identitaire, c'est pour ça qu'on atteint à la dictature, entre autres. C'est qu'il ne s'agit que de faire une alliance. On ne peut pas s'exprimer autrement que dans le motif de l'alliance, et comme l'indique un certain nombre de recommandations liées à telle ou telle identité, les alliés ont pour conseils principaux qu'ils reçoivent le silence, rester dans la salle et écouter est généralement ce qui est donné comme conseil principal aux alliés.
Dans les universités américaines, dans certains campus en tout cas, il y a maintenant des safe spaces, des pièces où on saurait protéger des micro-agressions et des agressions.
Oui. L'idée, c'est qu'on délimite un espace en disant auparavant que dans cet espace safe, donc sûr, sécurisé, rien ne sera dit ni ne sera fait qui puisse être interprété comme une agression vis-à-vis de telle ou telle identité. Donc on peut avoir des safe spaces différents selon les identités, hein. Mais une sorte de contrat moral qui fait que... Alors le safe space, il peut être parfois réel, avec des peluches pour que les étudiants se sentent mieux, etc. Mais c'est aussi un terme pour indiquer un bureau de professeur qui sera plus sûr qu'un autre. En ajoutant l'autocollant devant la porte, je signale que je ne vais pas agresser telle ou telle identité.
Je suppose qu'il n'y a pas ça sur votre porte à Cornell. Monsieur Dubreuil.
C'est une bonne supposition, même si elle est dangereuse pour moi, sans doute. Mais...
Ça fait penser aux abris anti-atomiques d'autrefois, ou alors à ce qu'on appelle les panic rooms dans un certain nombre de projets immobiliers. Vous savez, une structure fermée, déjà, une cité fermée, puis à l'intérieur de la cité fermée, une panic room.
C'est une chambre de panique.
Quoi ?
Une chambre de survie. Une forteresse à l'époque médiévale. C'est très à la mode dans la construction haut de gamme. On n'est jamais trop prudent face aux effractions.
Qu'est-ce qui peut empêcher quelqu'un de forcer la porte ?
L'acier. Mur en béton armé, ligne téléphonique enterrée, non connectée à la ligne principale. Vous appelez la police sans qu'on puisse vous couper. Système de ventilation spécifique, une batterie de moniteurs de surveillance couvrant la quasi-totalité de la maison.
Tout ça, ça me rend un peu nerveuse. Veuillez ouvrir tout de suite. Ouvrez la porte, s'il vous plaît.
Qu'on ouvre les portes, c'est la recommandation que vous faites, comme dans le film de David Fincher, pour retrouver les autres et pour pouvoir dire tout simplement que on a le droit de protester contre l'injustice faite aux autres. Enfin, on a le droit, quand on est député père de famille, de voter la dépénalisation de l'homosexualité.
Oui, on a peut-être même le devoir par certains aspects moraux, oui.
Parce que la politique devient ainsi un despotisme à sources multiples d'ailleurs.
Oui, puisque l'identité se porte aussi bien aujourd'hui aux États-Unis à droite qu'à gauche, de l'extrême droite à l'extrême gauche, Trump étant essentiellement un identitariste pour un certain type de
personnes,
de victimes, puisque c'est comme ça que maintenant Trump se présente comme le porte-parole des victimes, hein, même si ça peut paraître surprenant. Et à l'intérieur de ce dispositif, il n'est plus question d'un dialogue contradictoire. Il est juste question de soliloques alternés, comme on a sur les réseaux sociaux. Je parle pour d'autres qui sont comme moi et qui répondent en chœur « Oui, je pense pareil, et c'est parce que je partage cette même identité. »
Parce que, à nous entendre, on aura eu l'impression que nous parlons seulement des campus américains, même s'ils ont plus d'influence peut-être que les universités n'en ont en France. Votre sujet, c'est aussi la parlure électronique.
Oui, c'est essentiellement le vecteur aujourd'hui au niveau mondial. S'il n'y avait pas le capitalisme technologique et de la communication qui se mondialise, alors le livre que je présente ne serait qu'un document donné sur un événement actuel aux États-Unis. Or, il s'agit d'un mouvement bien plus profond par la dissémination électronique.
Comment est-il reçu ? Est-il considéré comme un livre rationnel ? Est-il un livre rationnel ?
Mon livre.
Oui. Vous posez vous-même la question, c'est pour ça que je me la permets.
Oui. Non, je crois qu'il est éminemment rationnel, mais il est certain que les réponses à l'intérieur d'un régime d'identité sont extrêmement délicates à toute attaque contre le bien fondé même de cette position-là.
Votre dictature des identités est publiée chez Gallimard. Cette émission a été réalisée par Valérie à Estaraï, avec à la technique Patrick Henry et l'équipe Ilinka Degulesco, Frédéric Martin, Franck Olivard.